tendance à me plaire. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Tendance à me plaire, une émission que vous retrouvez tous les 15 jours sur Radio G, sur Fréquence Zik, en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Durant une heure, plusieurs chroniqueurs évoquent ce qui fait l'actualité dans différentes thématiques, le cinéma, la mode, la santé, les nouvelles technologies, le tout en compagnie d'invités. Et ce soir, nous recevons Vanessa Bataille et Judith Gérams, deux dessinatrices qui viennent nous parler de leur passion, mais surtout d'un mouvement qui fait de plus en plus d'adeptes dans toutes les villes, mais aussi dans tous les pays, et notamment à Angers. Il s'agit de Urban Sketchers, un regroupement de dessinateurs qui se retrouvent pour vivre leur passion en groupe. Alors vous le savez, l'émission est également filmée via un live que vous pouvez regarder sur la page Facebook de l'émission Tendance à me plaire. Et ce soir, c'est particulièrement utile, puisque Vanessa et Judith vont dessiner en direct ce qui se passe pendant l'émission, le studio, nous, les chroniqueurs. Alors on verra à quoi on ressemble en dessin à la fin de l'émission. Et s'il y en a un qui va être particulièrement difficile à dessiner, eh bien c'est Bruno, avec qui nous commençons l'émission.
Tendance à me plaire.
Ah, c'est à moi. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? On parle dessin. Ah, ben, c'est Manu, la rédac-chef, qui va être contente, alors... Non, parce que quand c'est Karine, la rédac-chef, eh ben, on reçoit des vignobles. Alors, si on parle de sein, je pense que c'est Manu, je ne sais pas. Quoi, généralement, ses préoccupations sont quand même plus bas sur le corps humain. Bon, après, c'est porteur. Un dessin, tout le monde en a. Et même si on est loin de l'égalité homme-femme. C'est vrai, ça. C'est tout pour elle. Rien pour nous. Voilà. Est-ce qu'on manifeste, nous, non? Vous voyez, alors, les hommes souffrent en silence. Bon, après, vaut mieux pas parler de sein aux hommes non plus. En ce moment, on mange du porc à tous les repas. Des malades, il y en a eu, mais maintenant que les femmes ont le courage d'en parler, on découvre des trucs de tarés. Rien qu'à Angers, déjà, un gars condamné cette semaine pour avoir filmé les dessous des femmes en posant son téléphone par terre. Et encore ce haut fonctionnaire du ministère de la Culture qui met du diurétique dans les cafés des filles pour les voir se tordre de douleur en ayant envie d'aller aux toilettes. Non mais franchement les gars, on va se calmer. Et c'est pas parce qu'on parle des seins qu'il faut être tout excité. Comme dit Caro, non mais dans quel monde vit-on? Qu'est-ce qu'il y a, Raphaël? Je te vois tout énervé, là tu gigotes de partout. Là, c'est le diurétique ou le sujet qui t'énerve? Quoi, des seins dans la rue? On reçoit des fémènes? Je comprends rien, ouais. Mais pourquoi t'es tout rouge? Ah, des seins! Dessin avec le crayon.
Mais oui, Bruno, écoute.
Oh, la boulette. Oh là, mais tu t'exprimes mal aussi.
C'est vrai.
Oh là, pardon, mesdames, je suis désolé. Heureusement que cette année, je présente pour les invités, moi. Bon, alors, je vais regarder le reste du sommaire, ça va changer. Alors, Olivier, présente le dernier Polanski. Écoute, on va parler dessin, voilà. Sinon, je vais me faire décalquer. Allez, ça va faire un motif pour illustrer ma chronique et faire bonne figure avec ma silhouette de rêve. Oui, là, les clompillements en fusent, surtout par Sonia la sanguine. On frise la gravure de mode, non? Ok, j'ai pas une coupe qui frise avec la laque, mais au moins je crée. Vous me voyez à l'œuvre, vous voyez le tableau. Je vous fais pas un schéma non plus. Ah, je vois, on esquisse un sourire, On n'est pas ce n'est pas l'image que vous avez de ma représentation. Faisons-nous une toile et on aura une ébauche de relation. Et je ne vous parle pas de reproduction. Avec moi, vous verrez la vie en couleur. Pastel que vous auriez avec la caricature qu'on pourrait dépeindre de Raphaël. C'est peut-être une huile, un cadre, mais il n'y a pas que lui dans le paysage. Allez, on y est fresque. Voilà, un peu de poésie gribouillée, une ébauche griffonnée pour dresser un portrait à l'aide de synonymes ou mots en rapport avec le dessin, 39 exactement. Mais on va tirer un trait sur mon édito à la gomme et on va pouvoir enfin se dessiner le panorama des chroniques de ce soir. Bonne émission à vous.
Merci Bruno. Alors on parlera dans la suite de l'émission de Urban Sketchers, mais aussi de la mode éco-responsable avec Caroline, des films à ne pas louper en cette fin d'année avec Olivier. Vous retrouverez également un nouveau Sauce au Chaud, mais pour l'heure, retrouvons la chronique bien-être et santé de Manu.
Alors j'étais loin d'imaginer qu'il existait un World Toilet Day. Je ne sais pas si je le prononce bien, Judith, tu pourrais me dire peut-être.
Célébré le
19 novembre.
C'est le jour de mon anniversaire.
Bon anniversaire.
Tous les ans, c'est l'année mondiale des chiottes.
Le cadeau que je te fais.
C'est gentil, merci.
Ma première réaction en découvrant cette journée a bien sûr été de ricaner grassement, gnarf, gnarf, gnarf. La journée des toilettes, comme c'est rigolo comme sujet. Oui, je fais bien le gnarf, gnarf,
oui,
gnarf.
Oui, oui.
Voilà. Sauf qu'en réalité, il s'agit d'un enjeu majeur de santé publique qui n'a rien de risible du tout, du tout. De tout temps d'ailleurs, les hommes ont cherché des solutions pour la gestion de l'assainissement. Les lieux d'aisance, retrouvés grâce aux fouilles archéologiques et aux écrits, racontent aussi l'histoire des sociétés. Il semblerait que les Grecs, 2500 ans avant Jésus-Christ, aient été les premiers à équiper leur ville de systèmes d'évacuation des eaux usées et de toilettes.
Monsieur de la Grecque.
Exactement. Et selon l'appartenance sociale, des pierres polies, ou mieux, des feuilles de poireau, servaient de papier hygiénique.
D'accord. Les feuilles de poireau, ah, oui, je ne les verrai plus de la même façon. Moi non plus, ouais, faire
une soupe de poireau. C'est...
On entre dans l'hiver. Ouais, bon ça, appétit ouais. à tous. Ouais. Astucieux et toujours bon à retenir en cas de rupture de PQ.
Oui, mais non.
Les Romains ont ensuite été très à la pointe sur les latrines, qu'ils aimaient publiques et collectives. Des sortes d'open space pour pouvoir tailler le bout de gras avec ses semblables.
C'est agréable. Hein.
Ouais, malin, ces Romains. Bon, ensuite, selon les époques, l'hygiène a connu des hauts et des bas, et au Moyen-Âge, comme à la Renaissance, la vigilance était de mise, le pot de chambre ayant une fâcheuse tendance à s'écraser au sol depuis les étages des ouais. habitations. Berk, berk, berk. Pendant longtemps d'ailleurs, comme en Angleterre, n'est-ce pas Judith, on pouvait manger à table avec son pot de chambre dernier cri afin de pouvoir l'utiliser pendant le repas, chic et pratique.
C'est un peu les prémices du Montauban peut-être.
Peut-être, va savoir. Mais c'est véritablement au 19e siècle que l'hygiène s'impose avec la prise de conscience sanitaire, l'invention de l'eau courante et l'arrivée des toilettes. Néanmoins, si aller aux toilettes peut paraître l'un des gestes les plus anodins lorsque nous y avons accès, il faut savoir que la moitié de la population mondiale ne dispose pas de toilettes salubres leur permettant de gérer les déchets humains en toute sécurité. 4,2 milliards de personnes vivent sans accès à des installations sanitaires, soit plus de la moitié de la population mondiale. Encore aujourd'hui. Dans le monde, 2 milliards de personnes boivent de l'eau provenant d'une source contaminée par des matières fécales. Un tiers de toutes les écoles primaires manquent d'installations sanitaires et hygiéniques de base. Alors comme ça, vous vous dites, c'est pas très très grave en soi, à la limite, bon. Mais sauf que ça interdit à bon nombre de jeunes femmes, jeunes filles, d'aller à l'école. Voilà, quand même. Parce que si bâiller en public quand on met la main devant la bouche est tout à fait toléré, en revanche, déféquer n'est pas toléré, même en mettant la main devant les fesses. Pourtant, 673 millions de personnes dans le monde défèquent encore en plein air aujourd'hui. Eh oui. Donc, cette journée a bien lieu d'être encore aujourd'hui en 2019.
Pourquoi le jour de mon anniversaire ?
Ah ben ça, tu leur poseras la question et ce sera chacun des pareils.
Je cherche le lien, c'est ça.
Et c'est pas moi qui crée les journées mondiales, okay. Bruno. Donc, tu portes tes réclamations à Dieu. Tiens, voilà. L'assainissement est une priorité mondiale en matière de développement. Les objectifs de développement durable adoptés en 2015 visent notamment à assurer d'ici à 2030 l'accès à tous, dans des conditions équitables, à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air.
Je fais pipi dans les toilettes, je fais caca dans les toilettes.
N'empêche que c'est dramatique.
Manu, je suis heureuse de voir que tu arrives à mon niveau de chanson. Oh, je suis rejoint. Merci.
Mais je progresse hein, quand même, chaque semaine je progresse.
Merci Manu, et bien place à nos invités du jour. Avec Jérémy qui vient de s'installer.
C'est l'heure de l'invité.
Alors aujourd'hui, nous recevons Vanessa Bataille et Judith Gérams qui viennent nous parler du groupe Urban Sketchers qui sévit dans les rues angevines depuis quelques années. Alors quand même, histoire de décompresser un petit peu, on offre à nos invités un petit cadeau et on va demander à Judith également de s'approcher bien du micro. Voilà, un petit cadeau à partager. Ce sont des crayons, hein, forcément, adaptés à la situation puisque ce soir, on parle de dessin. Donc Vanessa, tu gères ce mouvement, je te tutoie parce qu'on se connaît un petit peu, donc tu gères ce mouvement sur Angers. Alors peux-tu déjà commencer par expliquer ce terme, en quoi ça consiste ?
Urban Sketchers, c'est une pratique de dessin in situ, sur le terrain, sur le vif, donc pas du tout d'après photo.
Bien près du micro. Pas du tout près. Ouais, c'est important de le dire. Pas d'après photo.
Pas d'après photo. L'idée, c'est de dessiner soit en intérieur, soit en extérieur. Donc, ça peut être dans la rue, dans les parcs, dans une manifestation. En intérieur, ça peut être chez soi, mais aussi dans un bar, dans une salle de spectacle, un musée. Et de dessiner avec son petit matériel facile à transporter. et nos dessins sont des témoins de ce qu'on voit, de ce qu'on vit.
De ce qui se passe dans la ville.
Voilà.
Du coup, vous vous réunissez régulièrement, à quelle fréquence ? Judith, peut-être ? Judith est timide, elle ne veut pas parler au micro.
Désolée si je mange.
Bien près du micro, Judith.
Belle langue française. Bon, nous nous rencontrons tous les mois, le deuxième samedi du mois, le matin.
D'accord.
Et la dernière fois, samedi dernier, on était une vingtaine, peut-être. C'est super, ça, chaque fois, ça
grossit.
Ça grossit. Oui. Il y a des nouveaux.
C'est des dessinateurs plutôt amateurs ?
Oh oui.
Oui,
oui.
Essentiellement amateurs. Oui, oui. Et c'est ouvert à tous, alors tout le monde peut s'y présenter, comment ça se passe ?
C'est ouvert à tous, un débutant accepté, sans problème, même ceux qui n'ont jamais touché un crayon peuvent essayer, voilà.
Comment on est, par exemple,
ça marche bien.
Voilà.
C'est
bien,
voilà. Hey, magnifique.
Tu peux venir,
ouais,
tout niveau, super. Et puis il suffit d'essayer, et puis l'occasion de dessiner en groupe, ça permet justement de se lancer.
Et puis d'échanger également nos pratiques.
Oui, partager le savoir-faire, les plus expérimentés, à les débutants. Et le chose pour moi, c'est gratuit pour tout le monde.
Ah bah oui, on a oublié de préciser, c'est important.
Oui, c'est très important pour les nouveaux à faire un essai.
Et puis du coup, alors à la fin quand même, on doit mettre son dessin pour une photo.
C'est facultatif.
C'est facultatif.
Oui, on a pris cette habitude. Mais...
Et puis, du coup, ces photos, on les retrouve sur la page Facebook.
C'est ça.
Voilà, donc on vous incite vraiment à aller voir cette page Facebook et à découvrir ces magnifiques dessins, dont les dessins de Vanessa et Judith. Hein. Alors, on les postera sur notre page Facebook.
Elles sont fortes quand même, là, il y a quand même du niveau.
Mais,
hein.
Oui, il y a quand même, y a quand même du niveau. On mettra des
mais
photos.
Mais vous donnez des cours un petit peu ? Vous vous aidez un peu ou non, chaque...
Nous aidons un peu les débutants.
Ça, c'est bien.
C'est très bien. Pour nous, ça donne grand plaisir aussi.
D'accord.
Alors, c'est un mouvement qui est né en 2007 aux États-Unis. Comment vous avez eu connaissance de ce concept et comment tu l'as mis en place, par exemple, à Angers, Vanessa ?
Moi, j'ai eu connaissance vers 2009-2010. En fait, j'ai commencé par faire un stage de croquis en forêt, en ville, dans le Lot. Ensuite, par les réseaux sociaux, j'ai découvert les randos croquards. C'est le même principe, en fait. Hein.
Les randos croquards ?
Rando croquis ou rando croquis.
Ah, c'est ouais, rigolo.
C'est le même principe. C'était inventé par quelqu'un qui est maintenant décédé, Bruno Molière, et qui proposait des parcours, on dessinait, sur le terrain. Et puis, de rencontre en rencontre, j'ai découvert les Urban Sketchers. On était un tout petit groupe au départ, et maintenant, en rencontre nationale, on est près de 400.
Ah oui, donc ça se passe quand ? C'est une fois dans l'année, les
rencontres ? C'est une fois dans l'année, au printemps. La dernière, c'était à Dijon, et la prochaine fois, ça sera à La Rochelle, week-end de la Pentecôte.
D'accord. Et Judith, alors, comment raconte-nous un petit peu ton histoire depuis quand tu dessines ? Pourquoi tu as eu envie de rejoindre ce groupe ?
Oh, parce que comme partage, comme ça, c'est super bon pour moi. C'est aussi une pratique de français. Donc ça, c'est très bien
c'est
aussi.
C'est un bel apprentissage.
Ouais. Et bon, moi, j'ai commencé il y a 10 ans, je crois, avec Urban Sketcher. Et quand je suis arrivée à Angers, j'ai demandé est-ce qu'il y a un groupe, et j'ai trouvé très difficile. Et finalement, quelqu'un m'a dit, ah, il y a une dame qui s'appelle Vanessa, tu peux le trouver, et elle a commencé un groupe. Donc oui, je suis très contente à découvrir Vanessa.
Et c'est ta particularité, parce que toi tu voyages beaucoup, et du coup tu cherches à trouver des groupes, en fait, USK,
oui,
locaux.
Oui, oui, c'est ça, parce que c'est un groupe mondial, et donc comme ça, si on fait un voyage, moi je contacte en avance par leur site internet, et toujours ils m'accueillent très chaleureusement. Dire ça. Et il organise quelque chose, un petit rendez-vous ou des choses comme ça. Donc j'ai fait des amis aussi comme ça. Il y a deux ans à Kuala Lumpur, à Penang en Malaisie, oui. L'année dernière aux États-Unis, en Pennsylvania et
Chicago
aussi. Et ici en France, à Paris et à Dijon aussi. Donc comme ça, on peut passer les très bonnes vacances. Et mon mari, il vient avec moi. Il prend un café, il prend un livre et ça va.
Et il porte peut-être les bouquins aussi. Hein,
non. mais c'est pas de souci.
Alors, qu'est-ce que vous aimez dessiner? C'est quoi votre, votre particularité, Vanessa? C'est quoi ton, ton petit faible en, en dessin?
Moi, c'est pas trop les personnages, bizarrement. C'est plus l'architecture, le mobilier urbain. Voilà, j'ai fait tout un carnet sur...
Les pancartes, par exemple.
Les pancartes, j'avais fait tout un carnet sur la construction du dernier pont du tram.
Ah oui.
Voilà. Sur la ligne, la première ligne du tram. Voilà, donc
les devantures de magasins également, il me semble.
Oui, c'est ça. Et puis, mais aussi tout ce qui va être nature.
D'accord. Voilà. Donc, moins les personnages. Et Judith?
Moi, c'est plus les anciens bâtiments. Quand, donc, en France, on a les belles bâtiments. Et les animaux aussi.
Ah oui. D'accord. Et alors, de quel dessin êtes-vous le plus fier? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très protégé? Un dessin qui vous tient particulièrement à cœur?
Pour moi, c'était une ancienne grange rouge, les granges rouges que j'ai trouvées aux États-Unis.
Magnifique.
Cet été.
C'est de la gouache?
Bien près du micro.
C'est de l'aquarelle.
L'aquarelle.
Oui. Pardon, c'est de l'aquarelle, ça.
C'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué donc les techniques. Donc ça, c'est de l'aquarelle. Oui. Et effectivement, dans ces groupes-là, est-ce qu'il y a une technique particulière ou c'est ouvert à toute forme de technique? Oui. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes?
Ça va être surtout crayon, feutre, aquarelle pour le côté mobile. Parce que c'est difficile de se balader avec un chevalet quand on bouge et de la peinture à l'huile. Mais oui, voilà. Toutes sortes de feutres, de crayons. De...
Des crayons, ça marche très bien. Ouais. Et des crayons aquarellables aussi, on peut trouver.
Les pinceaux réservoirs.
Ah oui, alors les pinceaux réservoirs.
Certains n'aiment pas, mais c'est très pratique.
Facile à porter, oui.
Bah, on peut peut-être témoigner, Manu, parce que effectivement, depuis deux fois, on y va et on trouve le groupe hyper sympathique.
Alors le groupe est hyper sympa, vous êtes hyper accessible. Et puis alors moi, j'adore les conseils que vous prodiguez parce que on a l'impression d'être des super héros du dessin, alors qu'en fait, on fait que commencer, quoi. Donc moi, j'adore, c'est hyper valorisant. Non mais hein? Super Manu, Super Raphaël, enfin tu vois, on est, oui. Vous êtes valorisant dans, dans votre façon dont vous abordez le dessin, mais pour tout le monde, avec chacun sa technique. Donc c'est super parce qu'on y va, on peut y aller sans complexe, quoi. Donc,
exactement. C'est top. Donc ça fait vraiment plaisir.
Par contre, on n'a pas vu le dessin préféré de Vanessa.
Oui, c'est vrai, elle avait préparé.
Excuse-moi. Excuse-moi.
J'ai pas de dessin préféré, j'en ai pas sélectionné un, malheureusement.
Donc là, elle ouvre son livre. On peut le regarder sur le live si vous avez le live. On va le mettre devant.
Moi, c'est ce que j'ai.
C'est pas mal. Oui.
À Dijon. Voilà, sur trois jours de dessin. Tout en
c'est fait. Carrément une fresque, en fait. Ouais.
Mm-hmm. On dirait une BD.
On mettra les photos sur le
ça
site.
Ça fait très BD. Il y a certaines BD
tout
qui sont comme ça.
En parlant avec les uns et les autres.
Avec un carnet de voyage également, parce qu'il y a quelques mots aussi. Ça fait penser un petit peu à ça.
C'est magnifique. Tout est fait sur place.
Moi, je suis fascinée par tous les carnets, en fait. Je trouve ça extraordinaire que vous veniez avec vos carnets, que vous présentiez vos dessins avec une simplicité, voilà. Et puis, ça va très, très vite. En fait, c'est la rapidité d'exécution qui est tout à fait surprenante. Nous, on met 2 heures à faire un dessin avec Raphaël, on n'arrive pas à aller au bout. Et en fait, vous arrivez, vous avez fait quoi? 3 dessins à la quoi? Non, mais
pas toujours. Très,
c'est pas toujours. Non, mais n'empêche que, voilà, il y a une... Enfin, on voit bien, il y a un geste...
Mais sinon, c'est vraiment du dessin unique ou ça vous dirait de raconter une histoire ou de placer des personnages dedans, inventer des choses?
Comme c'est sur le terrain, sur le vif, il n'y a pas d'invention.
Oui.
Parce que nos dessins doivent être le témoin de quelque chose, de ce qu'on vit, de ce qu'on a sous les yeux.
D'accord.
Donc là, je ne vais pas inventer, mais je vais rajouter.
Le studio,
noté,
elle a peint le studio, elle a dessiné le studio.
C'est quelque chose que Manu a dit.
D'accord.
Voilà. Et puis, certainement, je vais dater, je vais localiser pour que ce soit vraiment du croquis sur le
vif. Donc, c'est une photo, quoi. Une photo près de l'instant.
Mais dessinée.
Et comme ça, on partage sur l'Internet. Mm-hmm. Et l'idée qu'on construit le monde par dessin.
Bah, ça nous change ça. Des chatons. Ça, c'est très bien.
Et puis, c'est, si vous arrêtez le temps, en fait, c'est ce que tu disais, Vanessa, tu as vraiment l'impression d'arrêter le temps.
On arrête le temps. Et je ne sais pas pour toi, Judith, mais en même temps, on est à l'écoute de tout ce qui se passe autour de nous. Un dessin peut évoquer un souvenir, une rencontre, une discussion. Voilà.
Et d'ailleurs, les échanges avec le public se passent. Il y a des réactions quand vous dessinez.
Oui, souvent, ils demandent des petites questions. Comment c'est fait, ça? Ou, est-ce que je peux vous joindre? Donc, c'est comme ça. On a un petit groupe. Ça intéresse beaucoup. Et je trouve les Français, ils sont très intéressants de l'art, du monde de l'art. Donc, il y a toujours les questions.
Beaucoup.
Ah oui.
Okay. Moi, je disais samedi dernier, quand on dessinait, à un moment donné, il y a une dame avec ses deux enfants qui s'est approchée de moi pour regarder. Et en fait, j'ai prêté mon pinceau avec une petite feuille à un petit garçon qui était là.
Ouais.
Et il a essayé. Oui, ouais. Et je trouve que je trouve ça super parce que ça a permis à ce petit d'expérimenter un truc qu'il n'aurait peut-être pas essayé tout de suite, en tout cas. Donc, c'est génial. Enfin,
mais qui choisit les spots, les endroits où vous prenez les photos, enfin les dessins. Vous voyez déjà.
Là, pour le deuxième rendez-vous mensuel, enfin le rendez-vous mensuel, je propose un quartier. Et puis après, sur place, on est deux, trois à essayer de choisir, à repérer des choses.
Donc vous y allez avant de vous retrouver, vous essayez de repérer ou non, vous dites je prends un quartier comme ça sur les pieds, on trouve.
Là, par exemple, pour cette période où il fait froid, où il peut pleuvoir, j'ai choisi un quartier où on pourra s'abriter en cas de besoin. Le quartier précédent, La Rochefoucauld, là je connaissais, je savais où on pouvait aller dessiner.
C'est un peu occupé en ce moment. Hein.
Voilà.
Mais ça pourrait être intéressant.
Avis aux amateurs, je vais certainement proposer un rendez-vous dans la foire.
Ah excellent. Oui. D'accord. Alors dernière question, est-ce que vous avez des projets, des idées particulières pour le groupe pour l'année prochaine? Du tampon, par exemple.
Oui, en préparation, un petit logo Urban Sketcher. Et puis peut-être une reconnaissance internationale du groupe.
Ah oui.
Ah, bien.
Carrément. Et pourquoi pas un week-end pour inviter d'autres dessinateurs. Hein,
oui. Moi, j'ai des demandes de la part de Parisiens, de Nantais. Oui.
Et Nantes aussi. Voilà.
Faut qu'on soit plusieurs à monter ça, par contre.
En tout cas, s'ils dessinent à l'intérieur des manèges pendant que ça tourne, je pense que ça peut être intéressant comme résultat.
Oui, c'est un exercice pas toujours facile. Mais en tout cas, ça donne vraiment envie de continuer avec vous, en tout cas. Et puis, vous pouvez rejoindre vraiment à tout moment ce groupe. N'oubliez pas la page Facebook d'Urban Sketchers Angers. Voilà, du coup, vous pouvez contacter directement Vanessa, notamment via cette page. Merci Vanessa et merci Judith. On continue les dessins, hein, puisqu'on va filmer ça. On vous souhaite une bonne continuation dans le dessin. Continuez à créer. Quant à vous, chers auditeurs, donc c'est ce que je viens de dire. Rendez-vous sur la page Facebook. Alors, on va enchaîner avec notre chaleureuse Soso, que le monde entier nous envie.
Oh,
voici
moi,
le Soso Show.
Bonsoir, alors écoutez, effectivement, moi je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Soso Show. Alors, petit retour, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la mission de ce soir, ça va être de retrouver à l'aide de splendides et subtils, toujours indices musicaux, les actualités locales, nationales ou bien internationales, hein, qui ont retenu mon attention ces dernières semaines. Alors, vous avez le droit de jouer, vous aussi, en plus, même si vous dessinez, vous avez le droit de jouer avec nous. Donc, les invités, les chroniqueurs autour de la table, mais surtout vous aussi, derrière votre poste, c'est à vous de jouer.
Le So-So Show.
Hey, je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais. D'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais. D'une balade en forêt.
Oh Marie, si je pouvais. Oh Marie, si tu savais.
Alors,
le So-So Show. Ah,
trop
si.
Fort. Hein. Ouais. Un indice, Manu.
Toi, tu as noté tous les éléments.
Ah, ça va t'intéresser, Manu,
forêt,
je pense.
Marie,
alors pour Noël, ça va t'intéresser.
Si tu vas dans l'autre sens.
Marie la forêt.
Ça sent le kick est mort.
D'accord.
Alors, c'est quoi l'actu?
Elle est décédée, Marie la forêt, la grande chanteuse Marie la forêt.
Voilà, c'est ça, j'ai fait. Je sais bien que vous allez dire, ouais, c'est. Mais bon, j'aimais beaucoup Marie Laforêt, elle était magnifique, elle avait des yeux splendides et puis ses chansons, il y en avait des magnifiques. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Marie Laforêt, la fille aux yeux d'or, l'actrice et chanteuse quand même majestueuse, donc elle est décédée le 2 décembre d'un arrêt du cœur.
Forcément.
À l'âge
On ne
de...
prend pas mes blagues, Sonia.
Alors le 2 décembre, c'est-à-dire qu'elle va décéder bientôt quoi.
Le 2 décembre, j'ai dit.
Oui.
Eh ben le 2 novembre. Hein, je lui donne un petit répit d'un mois.
C'est
allez.
Ça.
Donc elle avait quand même 80 ans. Son petit nom, son vrai prénom, c'était Maïtena Doumenac. Donc elle s'est fait connaître grâce au cinéma en 1960. Elle a commencé à tourner avec Plein Soleil. Elle a tourné entre autres avec Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Charles Aznavour aussi, plus de 40 films à son actif. Et puis en même temps, en parallèle, sa carrière de chanteuse qui débute en 63 avec des tubes qu'on reconnaît entre autres. Il y avait Les Vendanges de l'Amour, il y avait Viens,
viens.
C'est une prière. Enfin bon, ces dernières années, en tout cas, elle a fait de nombreuses apparitions au cinéma. Et également, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est la maman de Lisa Asuelos.
Oui, j'ai su ça. Alors non, je l'ai su dernièrement.
À cette occasion.
C'est une réalisatrice.
Voilà, qui a fait LOL, qui a fait aussi... zut, il y avait d'autres trucs, mais j'ai
oui,
plus en
oui,
tête.
Oui, des films très très bien d'ailleurs.
Ouais, qu'on a oublié, mais voilà.
Alors, l'information pointue hein, de Tendance à me plaire, c'est important.
Je ne vois pas qui est Marie Laforêt, juste pour mon petit plaisir. Petit extrait.
Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.
Elle avait aussi des yeux magnifiques. Elle était très, très, très belle, mais elle était splendide.
Allez voir des photos de Marie Laforêt, vous verrez des yeux, mais d'une beauté magnifique.
Enfin, donc du coup, il n'y a pas qu'en Amazonie que la forêt disparaît, c'est ça?
Exactement. Okay. Wow.
Ça, c'est fait.
Allez, on y va, deuxième extrait.
Le So-So Show.
Ah oui.
Oui, allez Vanessa.
Le mur de Berlin.
Effectivement, la chute du mur de Berlin, mais plus spécifiquement, hein, la commémoration, les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ces extraits? Alors je vais faire un petit décryptage parce qu'ils avaient leur importance. Est-ce que vous avez reconnu la première chanson?
Alors juste que c'est Scorpion, après le titre.
Winds of Change. Donc c'est un groupe allemand. Et donc à l'occasion de la chute du mur de Berlin, ils ont fait cette chanson qui était justement un message d'espoir.
Ah.
Et voilà, de changement par rapport à cette nouvelle ère qui arrivait.
Ah, et puis il y avait le violon de...
Ensuite, voilà, on retrouve le violoniste Rostropovitch qui, le 11 novembre 89, jouait la suite pour violoncelle de Bach. Donc pareil, la chute, enfin le mur était déjà tombé. Et pareil, c'était en signe de paix. Et puis bon, bah, droit dans le mur, hein, c'était pour vous aider un peu, pour ceux qui ne connaissaient pas les références. Alors qu'est-ce que je peux dire de la chute du mur de Berlin? Bon bah voilà, ça fait 30 ans qu'il est tombé. C'est pas si vieux que ça. En fait, je me disais, mais c'est encore
oui,
c'est proche de nous. Enfin... Mmh. Et voilà, il séparait l'Allemagne de l'Est de l'Allemagne de l'Ouest. Et voilà, donc il y a eu quand même beaucoup de personnes qui sont mortes en voulant essayer de passer hein, d'un côté ou de l'autre. Voilà, bon, si vous voulez plus d'infos, hein, vous allez voir sur l'histoire de la chute du mur de Berlin.
Et il y a également une très bonne série, hein, Deutschland de 83 et Deutschland de 86, il me semble.
89. Et oui, c'est vrai.
Voilà, qui raconte aussi cette histoire-là.
Et pour ceux qui nous écoutent sur Angers, il y a un morceau du mur qui est juste à côté du cinéma Pathé qui est voilà qui est là depuis assez longtemps et si vous voulez avoir donc vous avez une morceau du mur de Berlin.
Je rigole pour la tête de Manu.
Oui c'est ça, je demande. Vous êtes sans doute passé devant très souvent.
Mais je vois pas pourquoi en fait.
Sur l'esplanade.
C'est en référence.
Mais partout.
Ça a été offert.
Oui ça a été offert dans plein de villes.
Et on a la preuve.
Bah oui.
Oh l'autre.
Bah il y a une petite plaque et ça ressemble quand même.
La rebelle.
Juste sur l'esplanade du cinéma Pathé pour ceux qui sont en danger.
Allez on y va pour le dernier extrait.
Le So-So Show.
Vous avez toutes nos crêpes sur la carte.
Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Qu'est-ce qui se passe?
Oh, bah c'est encore une crêpe au sucre.
Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
So-So Show.
On n'a pas entendu le premier.
Ah, mais si on l'a entendu,
mais
c'est
que
la crêpe au
sucre.
C'est pas
dans le studio, mais les auditeurs l'ont entendu.
Ouais, c'est 40 ans des bronzés. Non, pas ça.
Alors, réponse collective, il y avait Manu, il y avait Olivier. Effectivement, les bronzés font du ski. Faites leur 40 ans. Bon, alors il est sorti ce film le 21 novembre 79, Les bronzés font du ski, Patrice Lecomte, hein, voilà, 40 ans quand même. Donc il était sorti en 78 après Les bronzés tout court, hein, qui étaient eux, je m'en mêle les pinceaux, j'ai n'importe quoi, Les bronzés qui sont sortis en novembre.
Oui, c'est
78.
Ce que j'allais dire, hein, Sonia, tu racontes vraiment n'importe quoi.
Deux jours après la mort de Marie Laforêt qui était sur le mur de Berlin.
Je mélange tout.
Le Camoulox.
Ça va être dur.
Pardon, Soso.
Ah, vas-y, Soso,
continue. Vous me cassez tout mon truc, je recommence. Puisque c'est ça.
Donc, le mur de Berlin.
Alors, Les bronzés font du ski est sorti le 21 novembre 79. En 78, Les bronzés, tout court, au soleil, hein, pour faire un peu le mimétisme des Club Med, sort et fait 2,3 millions. Et puis ils se sont dit, oh allez, ce serait bien de faire un deuxième avec le Splendid. Donc finalement, ils n'étaient pas très chauds initialement. Et puis est venue l'idée de partir à la neige. Et donc effectivement...
S'ils n'étaient pas très chauds, c'est normal.
Bah oui, c'est pour ça. Donc ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'à sa sortie, le film, il a moyennement marché. Ça n'a pas déchaîné. Non, ça c'est le Père Noël est une ordure. Et donc voilà, il n'a pas déchaîné les foules, il a fait d'ailleurs moins d'entrées que le premier, mais au fur et à mesure des diffusions à la télé, attention petit quiz, combien de fois est passé ?
Oh là, oh là, je pense qu'on est dans la centaine de fois.
Déjà
là.
10 fois par an,
150 fois ?
Bah, je sais pas, ils disent non. 17 à ce jour. 17.
Non, ah, beaucoup c'est... plus.
Nombreuses rediffusions à la télévision, 17 à ce jour. Alors,
t'as oublié un zéro.
J'ai oublié un zéro, mais écoute, non, mais... j'en sais rien.
C'est pas le Père Noël, remarquez. Hein.
Ouais. En tout cas, toujours est-il que c'est quand même un incontournable, on est d'accord. Enfin,
c'est
les phrases cultes, il y en a à vendre et à revendre. Donc,
ils auraient pu juste éviter de faire un troisième.
C'est
c'est ça.
Mais moi, je voulais vous poser la question, quelle est votre phrase culte, enfin, bah, qu'est-ce que vous retenez de ce film ?
Moi, c'est la scène du Scrabble, quand elle envoie le Scrabble, elle fait « Vous avez oublié votre Scrabble !» Et que la boîte s'ouvre et qu'il y en a partout, je trouve ça génial.
Sur la voiture.
Moi, j'aime bien dans le chalet, quand ils ont, il y a le crapaud qui est dans la bouteille, là, qu'ils doivent goûter.
Ah oui, quand ils sont dans la ferme, qu'ils sont perdus là, à la foune. Là.
C'est un petit peu, c'est assez drôle.
C'est horrible.
Non ? Ou quand te reverrai-je, quand il est coincé sur téléski aussi.
Planté de bâton, oui. Monsieur Duss, aussi. Non ?
Oui, c'est ça, mais il y en a tellement.
Je vais conclure,
que...
ou quand il monte...
C'est un choix trop cruel.
La crêpe au sucre, est pas mal.
Mais dit, sur un malentendu, ça peut marcher, quoi. Tu peux sortir avec une fille, sur un malentendu, ça peut,
voilà,
ça peut
c'est
marcher.
Voilà, c'est ça.
C'est
enfin, en tout cas,
dans
pour
le
ceux
langage,
qui ne connaissent pas ce film, ou qui ne l'ont jamais vu, ou qui se disent, oh, c'est ringard, non, allez-y, surtout n'hésitez pas, louez le DVD, faites quelque chose, mais regardez ce film et vous verrez, vous ne serez pas déçus.
Ouais, louer le DVD. C'est vrai qu'elle est passée. C'est pas encore le Blu-ray.
J'ai pas dit la cassette
VHS. Hein. On peut le trouver en VOD aussi, mais ça, ce sera quand elle saura que ça existe plus tard.
Bon, bah écoutez, vous avez fait un sans faute ce soir. Je suis très contente de vous. Bravo.
Merci, Soso. Et on peut dire bonjour à notre plus jeune chroniqueur de toute l'histoire de Radio G, présent dans le studio ce soir. Un tout petit bébé est présent dans le coin.
On
donc,
souhaite la bienvenue.
Bonjour.
À...
Elle a joué aussi tout à l'heure. J'ai vu son landau bouger. Alors, donc rien à voir. Donc elle, son créneau, c'est la mode, le stylisme. Elle en a fait d'ailleurs son métier. Place donc à notre spécialiste Caroline.
En un mot, ouais, c'est pas mal. Bon, alors, en effet, donc ce soir, on va voir comment être plus éco-responsable tout en étant à la mode. Ça va intéresser Jérémy et Pauline, ça tombe bien. Hein. Alors, je vais vous parler des différentes démarches pour acheter des vêtements, mais autrement. Donc, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile quand même de consommer différemment comparé à une petite dizaine d'années. Il y a beaucoup plus d'alternatives pour acheter ses vêtements et remplir son dressing de manière plus raisonnée. Alors, tout cela vient d'où ? Vient de quoi ? Vient d'une tendance qui est arrivée comme un raz-de-marée et qui perdure encore, c'est la mode du vintage et du rétro. Voilà, donc que ce soit pour les vêtements ou le mobilier. Et derrière tout ça, bien sûr, il y a une volonté aussi de contrer la consommation de masse, de retourner à d'autres valeurs, de stopper un peu ces tendances qui changent trop souvent. Tout va un petit peu trop vite aujourd'hui et au final, tout le monde se ressemble. Alors, pour preuve, hein, dans la mode du luxe, notamment, les défilés qui étaient au nombre de 2 voire 4 par an, printemps, été et automne, hiver, sont passés à presque 10 pour certaines maisons, comme Chanel par exemple, qui nous a sorti des pré-collections printemps, été, une pré-collection automne, hiver, une collection métier d'art, pardon, une collection croisière, une collection ski coco, etc. etc. Donc c'est vrai que pour les grandes enseignes aussi, on a ce problème, hein, puisqu'on est en pleine fast fashion.
Fast fashion, rapide.
Donc tout est en quantité et même pour H&M et Zara, on voit que les collections sont changées à peu près tous les 15 jours. Donc c'est vrai que si on veut suivre les tendances actuellement, à chaque collection, il faut s'accrocher et surtout sortir la carte bleue. Donc heureusement sont arrivés les friperies comme Kilo Shop sur Angers qui est situé rue Voltaire.
Mm-hmm. Voilà, donc c'est un quiz là ou...
Non, mais pourquoi pas.
Écoute,
on est en juin,
ça fait très longtemps,
ça fait très longtemps, oui. Avant il était rue de la Roe.
Oui, c'est ça.
Et il a déménagé, il a disparu.
C'est quand
il
j'étais étudiant, ça remonte.
Ouais, c'est ça. Oui, je pense que mon frère s'habitait.
C'est beaucoup plus commercial qu'avant. Parce qu'avant, c'est vraiment kilo shop. On amenait ses vêtements, on pouvait les vendre au kilo.
C'était vraiment pas cher, etc.
Et là, maintenant, c'est super cher.
C'est compliqué, oui. En fait, depuis la mode, tout le monde s'est arraché un petit peu vague sur cette tendance du rétro, du vintage. Et vu que c'est à la mode et que ça s'arrache, on augmente les prix. C'est dommage. Mais bon. On s'adapte. Alors, c'est vrai que c'est une enseigne qui achète en gros des lots de vêtements de style rétro et qui les vend en fonction du poids et de la gamme de la pièce. Donc, on y trouve un code couleur pour la valeur du vêtement. On peut y trouver des très belles marques de luxe, comme Burberry, Armani, etc. On pèse son vêtement et le prix s'affiche. Donc, le concept est super original. C'est pas nouveau, mais c'est super original. Et on peut trouver des vraies pépites si on fouille bien en fonction des arrivages. Et d'ailleurs, on peut les suivre sur Instagram parce qu'ils sont hyper présents, ils vous informent assez souvent de ce qui arrive, ils prennent pas mal de photos et ils sont très sympas. Donc voilà, ça
t'as
permet.
T'as combien de réduc alors?
Je sais pas, j'attends un message.
C'est ça,
un petit
bien.
Moins 50.
T'as bien compris la radio, toi, c'est bien.
Alors voilà, donc ça permet aussi de sortir du lot et de s'habiller un peu différemment, parce que c'est vrai qu'avec un t-shirt H&M, vous êtes sûr de voir au moins 10 personnes qui ont à peu près le même dans la rue, quoi. Alors,
moi je vais chez Apivette, moi, ils font pas.
Eh ben je vais en parler d'Apivette, mais très bien ça. Tu es mon exemple parfait, Bruno. Alors, évidemment, c'est aussi écolo, puisque ça participe à un cycle où on réutilise du vieux plutôt que de créer du neuf. Donc, dans une autre catégorie d'occasion, maintenant, vous avez les magasins seconde main, ou ce qu'on appelle aussi les dépôts-ventes. Donc, contrairement à la friperie, ce sont des vêtements plus actuels et des collections plus récentes, déjà portées, mais encore en très bon état. Alors, l'avantage, c'est de pouvoir acheter des belles pièces, mais d'éviter un petit peu le prix fort des grandes enseignes. Donc, sur Angers, vous avez le Dressing rue Plantagenet, qui est version un peu plus luxe, et un autre dress code cam, pardon, pour plus bobo, qui est rue Cornet. Voilà. Alors, maintenant, on va parler d'une démarche qui est un chouïa différente. Elle est aussi écolo, mais elle est un peu plus solidaire. Donc, vous trouvez Emmaüs Angers, quartier Saint-Serge, ou encore à Saint-Jean-de-Linière. Donc c'est la fameuse association créée par l'abbé Pierre et qui fête aujourd'hui ses 70 ans. Donc c'est une vraie communauté, c'est important de donner aussi. Vous pouvez rapporter vos vêtements, les chaussures, les accessoires. Et ils ont désormais une boutique en ligne avec une sélection d'objets pas très chers ou vintage. Donc c'est toujours sympa de faire aussi un don.
Et tu dis qu'ils sont à Saint-Serge du coup ?
Oui.
D'accord.
Quartier Saint-Serge, oui, dans la zone industrielle en fait.
Ok.
Voilà. Et
pardon.
sans transition. Donc, et il y a également le Secours Populaire qui est un petit peu dans ce genre-là. Association Solidaire aussi. Boulevard d'Avis à Angers. Et les parrains actuels sont Big Flo et Oli. Ils sont très sympas. Et... Oh.
Pardon. Non.
Ah, il y a un vent de révolte.
Oui, bah.
Non, donc
c'est,
ça.
On est rap, c'est pas les pires.
Alors, Big Flo et Oli, ça te parle pas. Mais non. Daphné Burki, ça te parle.
Carrément.
C'est ta chouchoute.
Carrément.
Et elle a sorti une collection avec Secours Populaire et Sarenza de chaussures.
Bravo, voilà. Daphné.
Donc voilà, on peut également citer Apivette qui fait du ramassage de vêtements, du don de vêtements, voilà. Alors par contre, petit bémol sur ces accroches et démarches écolo, il y a des vraies fausses démarches écolo qui sont plus en fait des coups marketing comme H&M avec son ramassage de vêtements,
ah
voilà.
Oui, c'est vrai.
Le principe c'est que vous apportez un kilo de vêtements et vous avez en échange un bon d'achat pour leur enseigne forcément. Donc derrière la démarche environnementale, il y a surtout un bon coup de pub puisque H&M a été très critiqué pour sa gestion des déchets comme le découpage des vêtements invendus, etc. Oh. Donc la démarche écolo est saluée, mais cependant Emmaüs a aussi critiqué l'envoi des vêtements apportés, distribués ensuite en Suisse, plutôt que de travailler avec des associations locales et de générer un réseau qui aurait pu créer des emplois. Donc voilà, pour la grande distribution, l'écologie a ses limites en gros.
On te voit pas, ça, la,
on
caméra,
te voit pas la caméra avec tes papiers.
Oh mince, pardon.
Surtout qu'elle a bien découpé ses
c'est
papiers.
Dommage.
Je sais pas ce qu'elle a fait, mais
elle a arraché.
Elle avait faim. C'est tout est coupé.
J'ai beaucoup d'énergie ce soir.
Je
ça.
Vois.
Donc voilà pour les différentes démarches. Et voilà. Ensuite, on peut retenir que Zara, H&M, Mango ont évidemment créé une ligne écolo en coton bio, mais ça, je vous réserve ça pour une prochaine rubrique.
S'ils agrandissent leur taille, on veut bien y aller.
Voilà. Bon, c'était super intéressant. En tout cas, on a appris plein de choses avec toi, Caro, ce soir.
Je suis à la mode, j'ai appris ça surtout. Je suis à la mode.
Alors, on va maintenant parler des films à ne pas rater d'ici la fin de l'année avec notre spécialiste ciné, Olivier.
J'en appelle à votre esprit d'équipe. La cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul.
T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Hein.
Contrôle de police, vous faites quoi là?
On attend le bus.
Un extrait de la bande-annonce des Misérables.
Oui, c'est exactement, Les Misérables. Alors avant, je voulais pas en parler, mais comme il y a une compatriote britannique qui est ici, j'ai eu un gros coup de cœur pour le film de Ken Loach qui s'appelle Sorry We Missed You, qui est un vrai choc. Enfin, c'est un très très bon film sur les conséquences absurdes, négatives de l'ubérisation à tout va. Donc je vous conseille d'aller voir, un film très très fort. Qui aurait mérité un prix dernièrement au Festival de Cannes.
Rappelle-nous le titre.
Sorry, We Missed You.
Okay.
Alors, je vais vous parler de deux gros films français qui sortent bien demain et puis la semaine prochaine. C'est des films français dont on va parler, je pense, beaucoup. Le premier, alors on en parle beaucoup actuellement, pas pour les bonnes raisons, c'est le film de Roman Polanski qui s'appelle J'accuse. On en parle beaucoup parce que bon, elle pourrait en être dessus, mais bon, il est accusé d'avoir agressé sexuellement une femme récemment, là, enfin dans les années 70. Bon, le film a quand même obtenu le grand prix du jury à Venise donc cette année. Donc il y a Jean Dujardin et Louis Garrel qui jouent dedans. Alors J'accuse, bien sûr, ça revient sur la fameuse affaire Dreyfus. Alors, il faut savoir qu'en 1871, la France a perdu l'Alsace et la Moselle. Donc, il y avait une montée du nationalisme et de l'antisémitisme. Et puis, en 1894, eh bien, Alfred Dreyfus, qui est un officier français juif, il est condamné à la déportation à vie pour avoir fourni des documents secrets à l'Allemagne.
Soi-disant.
Sauf que, eh bien, en fait, c'est tout faux. Il y a un chef du contre-espionnage, donc Marie-Georges Picard, qui jouait dans le film par Jean Dujardin, qui va découvrir en fait que le commandant Esterhazy en fait est le vrai espion. Un commandant qui s'appelait Esterhazy. Et donc l'état-major, va juger Esterhazy, va l'acquitter, même s'il sait qu'Esterhazy est coupable, il l'acquitte. Et en même temps, il refuse de gracier Dreyfus. Et donc en 1898, on va avoir le fameux J'accuse de Émile Zola dans L'Aurore. Émile Zola qui est le plus grand romancier au 19e siècle. Et donc dans L'Aurore, tiré à 300 000 exemplaires, il va accuser l'état-major français de refuser de réviser le procès. Voilà, et donc le film revient, alors c'est plus centré sur l'histoire de Marie-Georges Picard, donc qui est jouée par Jean Dujardin, qui va démonter un petit peu toute la machination qu'il y a eu pour accuser Dreyfus à tort. En fait, il a été poursuivi et tout. On voulait vraiment qu'il étouffe l'affaire, quoi. Donc
oui,
des fausses pièces et tout. Oui. C'est sur une société en pleine déliquescence à la fin du 19e siècle. Voilà, le film a de très très bonnes critiques. Bon, allez-y si vous voulez. Hein. Après, si vous n'êtes pas d'accord.
Mais tu l'avais ou pas?
Ça sort demain. Sinon, alors un autre événement, c'est le 20 novembre, c'est la sortie des Misérables. Ça a obtenu le prix du jury à Cannes et ça a été même proposé par la France pour concourir à l'Oscar du meilleur film étranger. Donc c'est le premier long métrage de Ladj Ly, qui est auteur de courts métrages au sein du collectif Courtrage-Mé. Il a aussi réalisé le documentaire à voix haute, le doc sur le concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis. Alors, il faut savoir que il y a quelques années, Ladj Ly, il filmait les violences policières commises en Seine-Saint-Denis, notamment à Montfermeil. Lui-même filmait les policiers. Et donc, il a eu, une fois devenu réalisateur, il a fait un film sur les violences policières. Donc, on suit Stéphane, qui est joué par Damien Bonnard, qui est un policier qui vient de Cherbourg et qui arrive à Montfermeil et qui va devoir intégrer une BAC, donc une brigade anticriminalité, à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Il doit faire équipe avec Chris et Wada, qui sont deux BACEux d'expérience assez extrêmes dans leur boulot. Donc, il va découvrir les tensions dans les quartiers. Et puis, à un moment donné, en fait, il y a un jeune de banlieue qui... par intermédiaire d'un drone, en fait c'est un peu l'histoire de Ladj Ly, le drone va filmer les faits et gestes des policiers. Donc il va filmer des bavures et tout, et donc les policiers vont tout faire pour retrouver ce drone et pour retrouver les fautifs. Voilà. Là aussi les critiques sont excellentes, donc écoute, je vous critiquerai une fois que j'aurai vu ça.
Et puis aussi pour les petits, pour nos enfants, peut-être pour Victoria, peut-être.
Oui. Et pour moi aussi.
Bah oui. Non, mais je conseille La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges 2.
Là, on est obligé de couper, Olivier. Non, non, on ne parle pas de La Reine des Neiges ici dans ce studio. Ce n'est pas possible. Non, pitié.
Alors, j'avoue, La Reine des Neiges 2, je ne sais pas ce que ça vaut. Par contre, j'ai entendu la nouvelle chanson. Ah, ça va s'appeler Dans un autre monde. Oh, en anglais, ça nous donne Into the Unknown.
Hein, quoi ?
Voilà.
J'ai pas compris, là, j'ai eu un flash.
Dans un autre monde, Into the Unknown, et ça crie.
Encore ?
Oui, ça crie beaucoup. Je crois que c'est plus navrant que libéré, délivré. <quoi. rire> Voilà, mais bon, je sens qu'on va en baver, je crois.
On ira ensemble.
On ira ensemble, ouais. Ça sort le 20 novembre, voilà.
Ok, merci Olivier. Alors on peut faire un petit aparté sur les dessins, puisque je vous le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, on a parlé de Urban Sketchers, donc un regroupement de dessinateurs. Et là ce soir on a deux dessinatrices en plateau qui dessinent l'ambiance du studio. On est tous dessinés, on peut regarder ça sur le live Facebook de l'émission. Voilà, donc de jolis dessins qu'on prendra en photo également et qu'on mettra sur nos réseaux sociaux, sur les pages Instagram, Facebook, Twitter, de tendance à me plaire. Eh bien, place maintenant aux dernières technologies avec toi, Bruno.
Bah, attends, qu'est-ce que c'est que cette présentation ? Non, mais Raph, excuse-moi, mais c'est pas comme ça du tout qu'on lance Bruno.
Ah bah écoute, je...
Non, 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 allez, laisse-moi le faire, ça faisait longtemps, j'en rêvais tellement.
Non, c'est pas possible.
Longtemps.
Ah, non. Bah allez, je te laisse faire.
Voilà, allez, moment de solitude.
Il est grand, il est fort, il nous change la vie grâce à ses grandes découvertes. Son regard sur le monde d'aujourd'hui, toutes les grandes chaînes télé et les autres radios sont à la porte pour nous le piquer, pour l'employer. Faites place au plus beau, à notre Bruno.
Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais en même temps, c'est de ma faute, parce que la dernière fois, j'avais dit que j'avais plus de présentation. Donc,
c'est ça. Ah bah voilà, c'est pour ça.
Voilà, il a mis...
T'es content ?
Vas-y, Jérémy, mets la musique suivante quand même, un petit peu plus normale, parce que là, je ne vois pas du tout. Là. Bon, surtout que là, je ne vois pas comment enchaîner. vous savez que pour l'émission, il m'arrive de tester des choses étonnantes.
Ah tiens.
Bah oui. Et bien, cette semaine, on m'a mis encore dans de beaux draps. Je me demande pourquoi ça tombe toujours sur moi.
Bah tiens.
Bon, alors, après le massage à quatre mains de la dernière fois, j'ai testé l'hypnose, mais pas n'importe laquelle, l'hypnose érotique. Donc, mais maman, si tu écoutes, tu vas sur France Inter. oui, ça existe, l'hypnose érotique. Alors, j'y avais pas pensé, mais en fait, c'est tout à fait logique, hein, puisque le sexe, c'est aussi et avant tout dans la tête, même si on vise bien. Et si la tête... Et si la tête n'y est pas, bien le reste ne suit pas, hein, c'est pas Louis XVI qui me contredira. Donc, parmi toutes les choses qu'on peut faire en hypnose, on peut arrêter de fumer, ne plus avoir peur des araignées, ne pas avoir d'anesthésie ou se souvenir du passé, ou prendre son pied, donc seul, sans bouger. Alors c'est pas un truc en l'air, hein, ce texte-là existe vraiment, hein. Vous cherchez sur le net hypnotiseur ou hypnotisme érotique et vous allez trouver beaucoup de sites qui proposent leurs services pour des séances érotiques sans contact. Alors, on ne parle pas d'hypnose thérapeutique, hein, même si ça peut peut-être soigner, mais là, c'est juste de l'hypnose récréative. Alors, ça peut faire peur, mais sachez qu'on ne pourra jamais imposer des choses à quelqu'un contre sa volonté par une simple hypnose ponctuelle. Le subconscient veille. Et puis, si vous avez peur de l'hypnotiseur qui pourrait vous endormir et abuser de vous, optez pour la solution d'hypnose en ligne sur Internet. Eh oui, ça existe aussi. Bon nombre de sites proposent des podcasts d'hypnose sur tous les sujets, et donc sur celui testé ce soir, l'hypnose érotique. Alors, ça marche pas sur tout le monde, et il faut vraiment vouloir le faire. Hein. Donc déjà, testez de petites hypnoses simples, hein, pour voir votre réceptivité. Alors si ça marche, la séance va se passer en trois étapes. Donc d'abord la relaxation pour obtenir le lâcher-prise nécessaire pour aller plus loin. Ensuite viennent les représentations érotiques. Et enfin, on revient doucement à la réalité. Alors pas de panique, on ne peut pas rester coincé à une étape. Hein. Une hypnose ne peut pas durer des heures sans qu'une voix l'entretienne. Mais alors du coup, c'est large l'érotisme. Hein. Alors que nous propose-t-on exactement sur ces sites ? Eh bien, il y a un catalogue de fantasmes qu'on n'imagine même pas. Alors tout est possible, jusqu'aux choses les plus interdites et les plus hardes. Alors tout ici est légal, hein. C'est pas parce qu'on a vécu sous l'état d'hypnose quelque chose qu'on aura envie de le faire physiquement. Alors Tendance à me plaire étant une émission grand public, on va être soft. Mais voilà, on peut imaginer avoir des relations avec un homme, une femme, les deux, ou plus de monde, voyez, vous imaginez. Donc le niveau de perversité dépendra d'abord de l'hypnotiseur qui vous parlera avec moult détails du sujet. Votre imagination, fera la suite. Il paraît qu'on peut même jouir. Bon alors vous me dites, est-ce que ça marche ? Alors j'avoue que j'avais un petit peu peur du résultat. Donc j'ai demandé à Olivier de m'accompagner dans cette aventure.
Évidemment.
Évidemment.
Tu es dans tous les bons coups, toi.
C'est ça.
Hein. Bah non, en l'occurrence, non.
Nous sommes donc fait hypnotiser érotiquement.
Mais où ça ?
Alors, j'avoue que... On va pas faire de la pub. J'avoue que pour la première partie, c'est vraiment très relaxant. Hein ? Alors pas du tout sexuel, juste relaxant. Après... Ça se corse, car il faut vraiment à lâcher prise. Et là, moi, j'ai un petit peu de mal quand même. Du coup, on entend toujours l'hypnotiseur parler, mais on l'entend au premier degré si on n'est pas dedans, quoi. On n'est pas dans le move. Et là, c'est très difficile de ne pas éclater de rire. Parce qu'ils mettent vraiment du leurre. Hein. C'est chaud, c'est extrêmement pervers par le texte, mais aussi par la voix. Vous imaginez oui, la voix ça, sensuelle.
Ça,
voilà.
Ça fait peur.
Ça fait non, c'est vicieux. Ça,
bah, il dit des horreurs. Vous aimez ça. Voilà, c'est très, très pervers. Voilà, limite, ça fout les jetons, en fait.
Mais qu'est-ce que t'as été faire là-dedans?
Bref, alors, j'ai testé ça pour une autre émission de Radio G. Donc, justement, je voulais vous en faire part également.
Juste, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de sexe dans ma rubrique. Je pense que ça lui manque. Bah oui, je vais y revenir.
Apparemment, ça doit marcher pour des gens. Vu le nombre de sites qui existent, ça doit marcher. Alors, Olivier, toi, t'as testé, t'en as pensé quoi?
C'est plus relaxant qu'autre chose.
Ouais.
En fait, ça excite, mais par le son. C'est quelqu'un qui parle très lentement, qui a une voix assez sensuelle. Enfin, celui que j'ai fait, en tout cas, était très sensuel. Alors, le deuxième que tu m'as fait écouter, Bruno, c'était un porc. Hein. C'était horrible, quoi. Enfin, c'était très, très, très pervers, quoi.
C'est vrai.
Mais si le premier, ça m'a... Voilà, je me suis senti reposé. Vraiment reposé. Après, j'ai pas eu d'extase. Hein. C'est pas...
Bon, en tout cas, on aura l'occasion de découvrir ça sur Radio G bientôt, parce qu'en 2020, il y aura une nuit de l'ASMR
oui.
Où on fera de l'hypnotisme, on fera
des sons.
On peut
réexpliquer ce que c'est l'ASMR.
Alors, ce sont des sons qui produisent des réactions qui peuvent être même physiques. Et donc, voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Je pense qu'il y aura des expériences à faire, ça va être vraiment sympa. Bon, alors, si vous êtes curieux, si vous avez plus de 18 ans, vous tapez hypnose érotique sur votre moteur de recherche. Il y a des vidéos gratuites ou payantes à partir de quelques euros. Ça peut pas faire de mal, mais enfin, c'est assez original.
J'avais jamais entendu parler de ça, moi.
Ben, moi non plus. Et donc, voilà, on a testé. Allez, un tout autre sujet. Alors ça, là, c'est un petit peu plus grave et c'est d'actualité. Vous savez qu'il y a eu un gros tremblement de terre cette semaine en France.
Oui.
Et nos plus grandes craintes, quand on parle de séisme, c'est les centrales nucléaires, évidemment. Mm-hmm. Alors le problème ne viendrait pas des bâtiments. On sait construire des confinements qui résistent. Mais le risque, tout comme à Fukushima, c'est l'inondation. Et pour la centrale de Tricastin, si la digue d'un des canaux du Rhône venait à céder, il y aurait un risque réel d'accident nucléaire grave. Et alors, le tremblement de terre cette semaine, c'était à côté justement de cette digue à une trentaine de kilomètres. Wow. Alors déjà, en 2017, c'est pas vieux, hein, un séisme avait fragilisé la digue et les réacteurs ont été arrêtés le temps de les consolider. En juin dernier, donc avant le séisme de lundi, malgré les travaux 2017, l'autorité de sûreté nucléaire a demandé un nouveau renforcement qui devrait se faire avant 2022. Alors cette fois, pour résister à une magnitude de 5,2 sur l'échelle de Richter, ils se sont basés sur une marge de sécurité par rapport au plus fort séisme jamais enregistré dans la région. C'était 4,7 en 1873. Mais ça, c'était avant lundi dernier. Ce lundi, le séisme était de 5,4.
Donc,
ce qui est beaucoup plus que les 5,2 qui ont été faits. Alors la préfecture rassure, aucun dégât sur les installations nucléaires du Tricastin. Ok. Mais par contre, on n'a absolument aucune info sur la digue. Donc voilà, je crois que je vais me replonger dans l'hypnose. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui,
hein, va te détendre.
Ça peut être sympa, mais en tout cas, il faut suivre ça quand même de très près. Allez, pour terminer, une dernière info. La ville d'Angers organise un concours de court-métrage pour le festival Premier Plan. Le thème est fake news et une partie de l'équipe de Tendance à me plaire se lance dans l'aventure. Donc on va tourner un film en novembre avec la réalisatrice, une professionnelle qui n'est autre qu'une invitée qu'on a eue à l'émission précédente, Ingrid Franchi. Donc souhaitez-nous bonne chance. Le film gagnant sera peut-être projeté sur grand écran.
Pendant le festival Premier Plan qui aura lieu en janvier.
Vers le 20 janvier, je crois.
avec Juliette.
Oui, c'est ça. Oh, avec Juliette Binoche.
Avec Juliette Binoche.
Voilà, exactement. Donc voilà, il est temps de révéler au grand public les dessins, Vanessa et Judith, parce qu'on arrive à la fin de l'émission.
On peut regarder sur le live
si on y arrive.
Tendance à me plaire.
Quelques petits problèmes de connexion.
Alors, on n'a plus de connexion. Là-bas, on les montre, on les montrera en photo, c'est pas grave.
Alors, on les mettra tout à l'heure.
Ah, Jérémy, elle est en train de noter les noms à côté. Donc en tout cas, ils sont très beaux. Alors, c'est pas très radiophonique, mais on les mettra sur le site.
Voilà, exactement. On les mettra sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci en tout cas pour cette belle prestation en direct. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités du jour. Donc, on se retrouve dans 15 jours avec de nouvelles chroniques en compagnie d'un invité mystère. Hein. Ah, et oui, le retour des invités mystères.
Enfin,
vous pouvez retrouver à tout moment l'émission du jour et toutes les infos sur les comptes Instagram, Twitter et Facebook de l'émission. On se quitte avec Studio Électrophonique de Buxton Palace Hotel. Bonne soirée et à bientôt les amis.
I feel like I did when I met you.